L'expérience que l'on a avec la joie, c'est que parfois elle se fait la route, elle nous fuit. Et ce matin, on va regarder un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Et c'est ce passage où Jésus est avec ses disciples dans la chambre haute, et là, il les console juste avant d'être arrêté. Et voilà ce qu'il leur dit, chapitre 16, verset 16, on va lire jusqu'au verset 33. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie qu'il dit « encore un peu de temps » ? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit « vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus » et puis « encore un peu de temps et vous me verrez ». En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies plus aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et Jésus leur répondit, vous croyez maintenant ? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour... le temps que tu as pris avec tes disciples, ils étaient confus. Ils ne voyaient pas, Seigneur, la crucifixion, la résurrection, ton ascension au ciel. Les choses étaient confuses, Seigneur, dans leurs pensées. Ils étaient troublés à cause de la peine et ces paroles énigmatiques que tu avais pu leur prononcer. Et puis, Seigneur, tu leur as donné cette promesse, Seigneur, que... par ta mort, ta résurrection, par ton ascension au ciel, tu allais transformer la tristesse de leur cœur dans une joie que personne ne peut nous ravir, dans une joie éternelle, dans une joie qui nous apporte le repos du cœur. Seigneur, nous venons à toi ce matin pour que tu parles à nos cœurs, que tu nous attires à toi, pour que l'on comprenne, Seigneur, comment se saisir de cette joie et de se laisser transformer à ton image, à ta ressemblance. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. En fait, qu'est-ce qui nous fait perdre notre joie ? La plupart du temps, les choses qui nous font perdre notre joie, c'est les événements ou les circonstances. Hein, les vols annulés, les trains retardés... les impondérables, les imprévus, aussi toutes sortes d'intrus que peuvent être la maladie, le deuil, l'handicap, les catastrophes, les accidents, toutes les épreuves que l'on a à affronter. Les gens aussi, que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos collègues, nous font perdre notre joie parfois. Hein, on les appelle les rabat-joie. Tous ceux qui nous irritent par leurs paroles, leurs actions ou simplement leurs attitudes. On voit bien que nos relations sont parfois juste conflictuelles, qu'on n'arrive pas, qu'elles nous font perdre notre joie. Aussi, les choses nous font perdre notre joie. Hein, les pannes, les pertes, les vols, les manques, les difficultés matérielles. Et en fait, la vie va rarement comme nous le prévoyons. Les choses ne vont pas comme nous pensons qu'elles devraient aller. Et pourquoi ? Et parce que nous sommes et nous vivons dans un monde qui est déchu. Nous vivons dans un monde déchu. Ce monde est, voilà, et c'est inévitable que les choses aillent de travers. Nous sommes une race déchue dans un corps déchu qui est sujet à la ruine, à la fatigue, à la maladie et à la mort. Nous sommes une race déchue aussi, nous souffrons de la part des pécheurs et nous leur rendons bien aussi, hein, faut le dire. On se rend bien compte que les choses, toutes les choses, tombent, se cassent, s'usent, se perdent. Donc tout est abîmé au fond par la chute et provoque du chagrin. Et c'est pour ça que nous prions. La plupart du temps, examinez vos prières, vous allez vous rendre compte que nos prières, c'est on demande à Dieu de changer les circonstances qui nous sont défavorables, de changer les gens qui nous entourent, ou de nous permettre de retrouver nos clés, ou d'avoir un prêt ou une augmentation. Dans un monde idéal, vous n'avez jamais faim, jamais soif, jamais mal. Dans un monde idéal, il n'y a pas de pécheurs, ce qui supprime une grande part de nos larmes. Il n'y a aucune catastrophe dans un monde idéal. Aucune maladie, aucun retard. Et donc aussi aucun sujet de prier. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place pour la prière. Il n'y a de la place que pour la louange, pour l'adoration, pour la reconnaissance. Mais il n'y a pas de demande à formuler puisque tout est là, tout est parfait, rien ne manque. Et là, dans cette nuit où le Seigneur va être arrêté, il parle à ses disciples et il prépare ses disciples à une heure qui va être particulièrement difficile pour eux. Cette heure, c'est la mort de leur maître, l'arrestation. La crucifixion de leur maître. Hein, il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, je serai mort. Et cette mort va même réjouir le monde, parce qu'ils seront enfin débarrassés définitivement de ce Jésus. Et donc ils sont particulièrement troublés. Il leur promet des larmes, des lamentations. Qui parmi nous, ici, n'a pas été confus au sujet de la raison pour laquelle Dieu poursuit cette situation ou maintient cette situation qui nous fait souffrir, qui est inconfortable? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous maintient cette sombre histoire dans notre vie et cette histoire nous fait souffrir? Comment trouve-t-il de la gloire pour son nom au travers de ce chaos? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette maladie? Dieu, pourquoi? Je suis confus. Pourquoi permets-tu cela? À quoi ça sert? Toutes ces questions peuvent être dans nos cœurs. Et Jésus va répondre à la confusion de ses disciples et aussi à la nôtre, par la même occasion, en promettant une joie parfaite, une joie durable. Il a dit, hein, verset 22, hein, « Nul ne vous ravira votre joie ». Et puis verset 24, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». On se rend bien compte que on a des joies, mais une joie que personne ne peut nous prendre. Une joie qui est parfaite, qui comble, qui nous satisfait complètement. On a l'impression que ça nous échappe parfois. La prière en son nom est une force puissante pour changer notre tristesse en joie. Et ce matin, je voudrais qu'on regarde à la recherche de la joie perdue. Ensuite, on verra que notre tristesse est changée en joie par la croix. Et puis enfin, demandez, afin que notre joie elle soit parfaite. Regardez, à la recherche de la joie perdue. Naturellement, nous voulons échapper à nos difficultés, à nos maladies, à nos problèmes. Peu importe au fond la méthode, nous voulons retrouver la joie. Que faites-vous, par exemple, lorsque vous avez eu une semaine pourrie au travail? C'est-à-dire vos collègues, votre chef, les affaires, les clients, rien n'a marché. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous pouvez échapper à cette situation? Souvent, nous cherchons une solution compensatrice. J'ai une semaine pourrie, ce week-end, je pars au ski. Ou j'ai une semaine pourrie, maintenant, là, samedi, je vais faire les boutiques. Ah, là, je vais faire les boutiques, ça va me... Et on cherche une joie ailleurs. Et nous savons que ça n'arrange rien à notre situation. Et si le problème n'est pas le boulot, mais ma relation avec mon épouse, comment je fais pour échapper à cette situation? Je m'enferme, je boude, je vais voir ailleurs, je reste le plus longtemps possible à mon travail ou devant la télé, je divorce. Est-ce que cela va ramener ma joie? Non. À chaque fois, ça l'aggrave encore plus. Mais alors, comment faire? Heureusement, nous les chrétiens, on a Dieu. Et parce qu'on a Dieu, quand on a des difficultés, nous recherchons la solution en Dieu, dans la prière. Nous prions que Dieu change nos circonstances au boulot. On prie que Dieu change notre conjoint. On prie que Dieu nous secoue dans telle situation. Nous saisissons aussi la promesse du verset 23. Il a dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Seigneur, change ça, change ça. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, change ma femme. Change mon mari. Fais qu'il soit plus comme ci. Ou est moins comme ça. Seigneur, vous voyez bien que quand on prie comme ça, il y a quelque chose qui n'arrive pas au fond. La joie n'est pas nécessairement là. Fais qu'il fasse beau pendant mes vacances. Fais que mes enfants réussissent leurs études. Fais que j'obtienne mon prêt. Fais que je retrouve mes clés. Mais on se rend bien compte que dans cette situation-là, quand on prie comme ça, quand on recherche notre joie là-dedans, ça n'arrive pas à chaque coup. Il y a une difficulté. C'est notre expérience montre que nous ne sommes pas toujours exaucés, même si Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, eh bien, il ne nous abandonne pas, il nous secourt dans notre faiblesse. Mais l'autre raison à cette difficulté que je trouve ici dans notre passage, c'est que Jésus nous prévient que nous aurons des tribulations dans ce monde. Il a promis, vous allez avoir des difficultés dans ce monde. Verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça, c'est compliqué à remettre ce verset-là avec la joie parfaite qu'il nous promet. Il nous promet à la fois des tribulations et à la fois une joie parfaite. Comment est-ce que ces choses vont réussir à se mettre ensemble? Si prier est une méthode pour obtenir tout ce que nous désirons, alors en priant, en son nom, nous pourrions échapper à toute situation qui cause du chagrin. Nous n'aurions pas de période de chômage au-delà de ce que l'on veut bien. Nous ne connaîtrions aucune difficulté financière. Nous serions guéris juste après avoir été diagnostiqués malades. Nous connaîtrions une vie sentimentale rayonnante, parfaite. Et donc, il semble que la promesse de joie ne soit pas liée à nos circonstances, aux gens et aux choses, mais plus à notre relation avec le Seigneur Jésus lui-même. Deuxième point, c'est que notre tristesse est changée en joie par la croix. Quand je parle de la croix, et je pense que quand Jésus évoque cette situation de la crucifixion, il a en tête tout son plan, c'est-à-dire sa mort sur la croix, c'est sa résurrection, c'est même son ascension au ciel, et c'est même, je crois, l'envoi du Saint-Esprit comme consolateur, évoqué dans le début du chapitre. Donc c'est, au fond, c'est tout l'évangile ici. Notre tristesse est changée en joie par l'application de l'évangile dans notre vie. Voilà comment Jésus réconforte ses disciples. Au début, c'est d'une manière un peu énigmatique, et puis dans la fin du chapitre, il parle beaucoup plus clairement. Mais au fond, ce que l'on comprend, c'est que « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus » parle de sa mort, de sa crucifixion. Et puis « encore un peu de temps et vous me verrez », ça parle de la résurrection, et puis même de l'ascension du Seigneur, parce que je vais au Père, dit-il. Il montre que la croix fonctionne comme ça. D'abord, il y a la tristesse, et puis ensuite, il y a la joie. Au verset 20, il dit, en vérité, quand il parle comme ça, c'est toujours très important, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, mais votre tristesse se changera en joie. C'est magnifique. Les disciples vont être plongés dans les pleurs, dans les lamentations, pendant que le monde se réjouira de la mort de Jésus. Mais la résurrection provoquera la transformation de la tristesse en joie intense. Il ne dit pas que l'événement qui cause leur tristesse cédera la place à un événement qui leur procurera de la joie, mais plutôt que le même événement, la crucifixion qui les attristera profondément, deviendra pour eux une source de joie. C'est ça la chose. Comprenez? Ici, il n'y a pas un changement. Et c'est pour ça que l'exemple au verset 21, l'exemple de l'accouchement est excellent, il est pertinent. L'enfantement, c'est un événement qui cause de la tristesse au début. Hein, même avec une péridurale, l'accouchement n'est pas une partie de plaisir. Mais ce même événement produit une joie immense. C'est-à-dire, c'est la cause même des souffrances, de la femme en travail, l'enfant qu'elle met au monde, provoque aussi sa joie. Il en est de même pour les disciples. Ce qui va provoquer leur tristesse, à savoir la croix, va provoquer leur joie. parce que c'est comme cela qu'ils obtiennent le pardon des péchés, la vie éternelle. Voyez la chose ? Votre tristesse se changera en joie. Beaucoup de nos pertes, beaucoup de nos tristesses, bien que excessivement douloureuses sur le moment même, produisent un énorme sujet de joie. Une croissance extraordinaire et une joie durable. Le théologien Donald Carson raconte dans un de ses livres sa propre expérience de la prière. Et il avait commencé à prier avec un de ses amis pasteurs, et ils se retrouvaient le lundi soir, et puis ils intercédaient ensemble. Et ça durait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, ils avaient tellement de sujets à faire connaître au Seigneur qu'ils passaient du temps. Mais Carson raconte qu'il était un peu insatisfait de cette situation. Après quelques semaines, il se rendait compte qu'ils avaient toute une liste à faire et à prier, mais leur cœur était parfois déconcerté. Et ce pasteur avec lequel il priait était un petit peu plus âgé que lui, et il lui a dit, mais plutôt que de passer au fait en revue toute notre liste, il dit, j'aimerais qu'on prie plutôt pour savoir ce qu'il faut prier pour certaines de ces circonstances, pour certaines de ces personnes. Qu'est-ce que l'on doit prier ? Alors du coup, ils ont commencé à se poser la question, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit te demander ? Et ça, de ce fait, c'est comme s'il disait, ben, on ne sait pas quoi demander. Avant, on savait, mais maintenant, on voudrait d'abord te demander à toi ce qu'on doit prier, et ensuite, on voudrait prier. Et une des personnes pour lesquelles il priait était une jeune infirmière nommée Diane. Diane était devenue chrétienne 2 ans auparavant, alors qu'elle était en école d'infirmière. Et maintenant, on lui avait diagnostiqué une leucémie avancée. Et le pronostic des médecins était assez sombre. C'était la mort dans un délai de 6 à 8 semaines. Alors, elle a écrit depuis son hôpital à Carson. Et dans la lettre qu'elle a écrite, elle montrait beaucoup d'amertume, de colère, de confusion. Et Carson, quand il a lu cette lettre, il s'est dit, mais qu'est-ce que l'on doit demander ? Qu'est-ce que l'on doit demander à Dieu pour cette jeune Diane ? Est-ce qu'on doit demander la guérison miraculeuse ? Les deux étaient parfaitement convaincus que Dieu a la puissance de guérir instantanément, définitivement, miraculeusement. Ils savaient que Dieu a cette puissance, c'est sûr. Mais aucun des deux n'avait la conviction qu'il devait prier cela. Qu'est-ce qu'on doit prier ? Est-ce qu'on doit demander une paix parfaite dans ton cœur ? Est-ce qu'on doit demander l'absence de douleur. Et puis, ils ont demandé pour avoir la sagesse. Et ils se sont plongés dans les Écritures. Et ils ont trouvé que dans la parole de Dieu, de nombreuses promesses faisaient mention de ce que Dieu garderait son peuple, quoi qu'il arrive. Et parce qu'ils étaient entièrement convaincu du salut de cette jeune femme, qu'elle était une chrétienne. Ils ont alors prié que Dieu honore ses promesses bibliques spécifiques envers Diane. Et ils ont prié ceci au nom de Jésus. C'était un lundi soir. Le jeudi suivant, Carson a reçu une lettre de Diane. Elle était datée du mardi.
c'est-à-dire du lendemain de leur réunion de prière. Et dans cette lettre, elle déclarait qu'elle s'était réveillée le matin, se sentant rafraîchie et renouvelée, comme jamais elle ne l'avait été auparavant. Elle chantait des cantiques et se sentait reposée dans le Seigneur. Elle disait que si c'était la volonté de Dieu, elle était prête à mourir et à être avec lui. Et elle mourut quelques semaines plus tard, mais pas avant d'avoir laissé une impression incroyable sur tout son entourage. Il nous faut apprendre à mettre l'Évangile. Il nous faut apprendre à mettre la croix dans l'équation de nos problèmes, de nos chagrins. Sinon, nous ne connaîtrons pas cette joie parfaite. Comprenez-vous ce que ça signifie, hein ? Verset 22, il leur dit, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Votre tristesse se changera en joie, une joie que nul ne peut nous ravir. » C'est donc par son évangile, par sa mort, sa résurrection, son ascension, que Jésus a établi une nouvelle relation avec son peuple. Une relation d'amour encore plus forte, qu'il ne les quitterait plus. Les disciples vont l'abandonner, mais lui, il dit, mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi, il restera avec moi. Et au fond, c'est ce qu'il nous promet. On va être séparés, pensez à nos frères algériens. Vendredi, lors de leur dernier culte, ils ont échangé leurs coordonnées. Ils ont dit, on va plus se voir maintenant. Mais le Père sera avec chacun d'entre nous. Et ça, c'était pas possible à l'époque cette époque-là. Il fallait que Jésus passe par la mort, par la résurrection, par l'ascension, pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, vivre une communion intime avec le Père, chacun là où on se trouve. Lorsque Jésus était sur la montagne avec trois de ses disciples, il n'était pas dans la vallée pour guérir ce fils épileptique. Lorsque Jésus était affairé à s'occuper de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, il n'était pas auprès de cette jeune fille mourante, la fille de Jairus. Mais par sa mort et sa résurrection, par son ascension au ciel, il nous a garanti que nous ne serions jamais seuls. Qu'on sera constamment en communion avec lui. Et là, on commence à voir qu'il y a une joie parfaite dans ces choses-là, d'être avec le Seigneur. En montant au ciel, Jésus a pris une place. En mourant sur la croix, en ressuscitant et en montant au ciel, Jésus a pris une place. Cette place, c'est au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute situation, il est le Seigneur, le souverain. Il tient le monde entier entre ses mains. Rien n'échappe à son contrôle. Il a reçu toute cette puissance. Et il gouverne tout l'univers d'une manière qui est favorable pour son Église, c'est-à-dire pour chacun de ses enfants, pour chacun d'entre nous. Il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça signifie qu'il est au contrôle de nos vies, si parfaitement, et que le plan qu'il est en train d'accomplir est parfait. Il est déjà parfait. C'est reposant, n'est-ce pas? Ça signifie que nous aurons pour l'éternité une joie parfaite, une reconnaissance éternelle pour tout ce que le Seigneur a fait. J'étais frappé dans ma lecture de l'Apocalypse ces derniers temps. Il n'y a pas Il n'y a pas de revendication dans le ciel. Il n'y a pas de pourquoi. Les pourquoi sont pour ici-bas. Au ciel, quand Dieu nous accueille dans son ciel, il n'y a que des louanges. On ne fait que célébrer la gloire de Dieu et de l'agneau. On est pleinement satisfait au ciel. Il n'y a plus d'incompréhension. Tout est clair, tout est net et tout a satisfait nos cœurs. Il n'y a pas de regret au ciel. Tout est parfait. En montant au ciel, Jésus nous a garanti un pardon total. Une acceptation, une approbation du Père. Il est notre avocat, il intercède pour nous. Il nous aime. Vous avez vu le verset 27 ? Il dit pas, Jésus, je vais venir, aller au ciel et puis je vais plaider au Père qu'il prenne soin de vous, qu'il réponde à vos prières. Il dit pas, je vais faire ça. J'ai pas à le faire. Le Père vous aime lui-même. Le Père veut prendre soin de vous. Le Père a déjà manifesté son amour pour vous, précisément à la croix, en offrant son Fils bien-aimé. Il nous est favorable, il est pour nous, il nous aime, que peuvent nous faire les hommes? Voyez-vous, notre tristesse est changée en joie par la croix. La croix appliquée à la situation de Diane a révélé à son cœur, qui était au départ rempli d'amertume, de colère et de confusion, ce que l'on comprend. Mais la croix appliquée à son cœur a révélé que Jésus avait donné par la croix une vie éternelle, une vie parfaite, une consolation immense dans sa présence. Et ces vérités sont devenues tellement réelles pour elle, tellement tangibles, qu'elles ont changé sa tristesse en joie. Et Carson écrit que cette lettre qu'il a reçue exhalait un réel parfum d'amour pour le Seigneur Jésus et une totale confiance en lui. Alors, demandez au nom de Jésus et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Au fond, c'est la prière de Carson et de son ami, une prière au nom de Jésus, c'est-à-dire se soumettant à la pensée de Jésus, appliquant l'évangile dans la situation de Diane. C'est cette prière-là qui a transformé la tristesse de Diane en joie. Il dit ici, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Les disciples, ils ne pouvaient pas avoir demandé encore quoi que ce soit au nom de Jésus, puisque c'est à la croix que Jésus est devenu finalement le médiateur parfait. Mais maintenant, comme par anticipation, il dit « Maintenant, demandez !» parce que son heure est là, elle est venue. Le Seigneur, il invite ses disciples à demander des choses au Père et de les demander au nom de Jésus. C'est-à-dire en s'appuyant sur son œuvre qui nous permet d'entrer dans sa présence, de faire connaître nos besoins. Vous rendez compte, c'est déjà la troisième fois qu'il parle de, qu'il fait cette promesse, « Demandez et vous recevrez ». Chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, il est en train de dire, « Je vais partir, mais demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et notre difficulté, c'est d'arrêter de demander des changements de situation, de circonstances, mais d'apprendre à demander que l'Évangile impacte que la croix, que sa résurrection, que son ascension impacte notre demande. Qu'elle éclaire notre intelligence pour qu'on comprenne ce qu'il convient de demander. Et on a besoin de demander. Je suppose que chacun d'entre vous ici a déjà fait cette expérience. Vous êtes chargé, accablé, et puis seul ou avec quelqu'un, vous répandez votre cœur devant Dieu. Et dans ce moment de prière, quelque chose de qui provient de la communion avec Dieu se passe dans votre cœur. Les vérités de l'Évangile, la personne de Christ, son ministère d'intercesseur pour vous, sa place à la droite du Père, tout ça, ça commence à se répandre sur votre cœur. Et puis là, vous commencez à goûter à une consolation. Vous savez, tout est bien. Vous comprenez, ça va. Et puis, même si la chose est encore difficile, il y a quelque chose de néfaste qui n'est plus là, qui a été arraché, enlevé. Parce que vous êtes entré dans cette paix, dans cette joie du Seigneur. Jésus ne nous trompera pas par une fausse promesse quand il dit « demander, c'est pour que l'on reçoive et pour que notre joie soit parfaite ». Prier en son nom, c'est prier dans cette perspective de sa seigneurie. Prier en son nom, c'est chercher ses désirs, pas les nôtres. C'est vraiment mettre l'Évangile dans l'équation. Ça signifie demander que ta volonté soit faite, Seigneur. Ça signifie de se débarrasser de nos propres agendas ou de nos propres solutions pour simplement s'attendre à la sienne et accepter la sienne. C'est essayer de découvrir quel est le programme de Dieu. Ainsi, cette promesse n'est pas la promesse de satisfaire nos caprices ou nos désirs, mais d'aligner nos désirs sur les désirs de Dieu dans la prière. Seigneur, que veux-tu que je te demande? Ça devrait être notre prière avant de prier pour telle et telle situation ou telle et telle personne. La croix nous enseigne que la volonté de Dieu est que nous soyons saints, que nous soyons changés à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça, on sait que c'est sa volonté. La Bible nous enseigne qu'il veut que nous souffrions. Que ce soit par la persécution en Algérie, que ce soit par des situations difficiles ici en France. Nous savons que sa volonté, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous savons que sa volonté, c'est que nous lui fassions confiance. Nous savons que sa volonté, c'est que nous le glorifions dans toutes les circonstances de nos vies. Vous connaissez l'histoire de Johnny Erickson Tada. Elle est devenue tétraplégique parce qu'elle a plongé dans une eau insuffisamment profonde. Et elle s'est brisée la colonne. Elle a demandé qu'elle soit guérie. Elle ne l'a pas été. Et puis Dieu a travaillé son cœur, et travaillé son cœur, et il le fait encore jusqu'à aujourd'hui, pour que ces événements, ces circonstances, puissent servir à sa joie parfaite. Elle a commencé à peindre en tenant le pinceau entre ses dents. Elle a écrit plusieurs livres. Elle a partagé son expérience avec Dieu, avec quantité de personnes. Elle est aujourd'hui à la tête d'un ministère international qui fournit des fauteuils roulants et d'autres matériels médicaux pour des enfants, pour des personnes dans le monde entier qui sont dans la peine. Le chagrin qui accompagnait initialement sa condition a, par la grâce de Dieu, par l'application de l'Évangile dans sa vie, a été changé en joie. Ce sont les mêmes circonstances. Mais ces circonstances-là, plus l'Évangile, ont servi sa joie. Et cette joie a débordé dans de nombreuses vies, par milliers. Alors Jésus nous montre que lorsque nous sommes confrontés à des temps troublés, il transforme notre chagrin en joie. Il oriente nos désirs vers les désirs de Dieu en appliquant l'Évangile dans nos prières. Notre difficulté reste entière pour autant. Qu'est-ce qu'on va demander? C'est pas une question simple, en fait. Dans les versets 32 et 33, il leur dit, leur vient, ils ont dit, ça y est, nous croyons, maintenant nous croyons. Et verset 31, il dit, ah, vous croyez maintenant? Qu'est-ce que vous croyez au fond? Parce que verset 32, il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Pour des gens qui avaient tout bien compris. Et puis il leur dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce qui m'encourage beaucoup dans ce texte, c'est que même si les disciples n'ont pas tout compris, même s'ils n'ont pas demandé toujours les bonnes choses, Dieu a accompli les bonnes choses dans les disciples. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la malédiction de la chute. Et il transforme tout cela. Et il intègre tout cela dans son plan pour que notre joie soit parfaite. Et elle le sera. Et pour l'éternité. Et même ici-bas, nos demandes maladroites, il les entend, il travaille avec, et puis il accomplit son dessein. Vous connaissez cet homme, son poème, ou sa prière est très connue, Hans Viscardi, il a été amputé des deux jambes, et il a écrit ces mots dans les années 1910. Il dit, j'avais demandé à Dieu le pouvoir pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible, afin que j'apprenne humblement à obéir. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. J'avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. J'avais demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. J'avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. Il m'a donné la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé. Mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi tous les hommes le plus richement comblé. Sa joie est parfaite, au travers même de son handicap, de sa souffrance. Sa joie est parfaite. Parce que Dieu a accompli, dans cette souffrance, son œuvre extraordinaire.